Un dixième déjà avec podcast. Salut Claude Boucher.
Salut Marc-André.
Hey, le temps file devant mes yeux.
Une édition anniversaire.
Oui, pratiquement. Malheureusement, cette édition anniversaire-là ne nous a pas permis de fêter dans les plus récentes actualités des cataractes.
Non, ça n'a pas beaucoup célébré en fin de semaine, même si ça a été mieux en fin de semaine que l'autre fin de semaine auparavant. Les mauvaises langues diront, je pense avec raison, c'était difficile de faire pire que les matchs à domicile contre Québec et Sherbrooke. C'est passé. L'effort était là en fin de semaine. Je pense que les Cataractes, dans l'ensemble, ils ont récolté un point sur quatre, auraient dû avoir la victoire du côté de Québec. Je pense qu'ils la méritaient. Malheureusement, ça arrive avec de jeunes équipes comme les Cataractes qu'on ressort du côté des perdants, malgré un effort supérieur à l'adversaire. On a perdu à Québec et dimanche contre le Cap-Breton. Je pense aussi que les Cataractes auraient peut-être mérité un meilleur sort. Mais bon, c'est le lot des équipes qui apprennent de perdre ce genre de match. Dans un an ou deux, les Cataractes ne perdront pas ces matchs-là.
Oui. Et en attendant, on a quand même pu voir certains éléments intéressants. Tu mentionnais l'effort, mais dans les performances individuelles, on a appris entre autres dans le match de dimanche que Maverick Bourque est un clutch player, comme on dit dans le jargon, un joueur qui sait faire la différence quand ça compte.
Écoute, j'ai revu la reprise de ce but égalisateur marqué avec 1,6 secondes à faire en troisième période à Alexander Ovechkin. Au même endroit, dans le cercle de mise en jeu, tireur droitier, tire sur réception dans le filet. Merci, bonsoir, on s'en va en prolongation. On parle de Bourque, mais également en fin de semaine, c'était le retour de Charles Beaudoin, de Xavier Bourgault également, qui était au championnat mondial des moins de 17 ans il y a de cela quelques semaines. Et on se demandait, Marc-André, c'était quoi l'impact de ces jeunes-là au sein de l'équipe des Cataractes? Ben, on a vu avec leur retour à la fois à Québec et contre le Cap-Breton qu'ils ont un impact, ils amènent un côté plus imaginatif à l'offensive des Cataractes et ce sont des joueurs qui n'ont que 16 et 17 ans. On peut deviner que dans deux saisons, ce seront probablement des joueurs dominants dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec si leur développement se poursuit comme tout le monde le souhaite. Ça augure bien là, pour les prochaines années pour ces jeunes joueurs pour les Cataractes. Mais effectivement, Maverick Bourque, quand le besoin se fait sentir, il a répondu hier avec un gros but qui donne un point aux Cataractes.
Et écoute, une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Claude, tu connais l'adage. Mm-hmm. Et dans ce cas-ci, les Cataractes ont perdu les services d'un défenseur de premier plan.
Oui, Olivier Desroches qui s'est blessé à la jambe gauche dans le match de vendredi soir. Écoute, au moment où on enregistre ce podcast, on n'a pas plus d'informations que lors du match de dimanche contre le Cap-Breton. On sait qu'Olivier Desroches sera absent au moins pour la semaine. Donc, le voyage en Abitibi ne jouera pas. Probablement absent aussi lors des matchs de la fin de semaine au centre Gervais-Auto. On se doute que c'est probablement une blessure sérieuse, mais même hier, en parlant de dimanche là, du côté de l'entraîneur Daniel Renault, il disait ne pas connaître la nature de la blessure d'Olivier Desroches. Peut-être qu'il y avait de l'enflure au niveau de là où la blessure s'est produite. Donc, on attend de voir s'il y a fracture ou déchirure ligamentaire. Je ne sais pas, j'extrapole, mais on n'a pas la nature exacte de la blessure d'Olivier Desroches. Du moins, c'était le cas en début de semaine. Mais ça reste que c'est un autre coup dur pour la défensive des Cataractes, déjà privée au moins jusqu'à Noël de Colin Paradis.
Et en remplacement, Alex Degagné, qui avait été laissé de côté pour le match contre les Remparts, a bien fait, même a saisi certaines opportunités.
Écoute, si je ne me trompe pas, Marc-André, tu l'as mentionné lors du match de dimanche, que les joueurs qui allaient devoir assumer le travail en défensive, il y avait une chose simple à faire, c'est de rester justement dans les limites de chaque joueur, de garder les choses simples. Alex Degagné, l'exemple parfait dans le match de dimanche, n'a pas été flamboyant. Mais il n'a pas fait d'erreur, parce que c'est le genre de joueur que, justement, quand il fait les choses bien, tu ne le verras pas nécessairement ressortir du lot, mais au moins va bien faire les choses, va faire les choses simples. Et à peu près tous les défenseurs des Cataractes dans le match de dimanche ont bien répondu à l'appel des entraîneurs, justement en limitant le nombre d'erreurs. Il y a eu des revirements quand même commis dans le territoire des Cataractes. Il y en a à chaque match, mais il y en a déjà eu beaucoup plus qu'est-ce qui a été fait dimanche. Et dimanche, donc, la défensive a bien fait le travail, malgré une défaite en prolongation. Et ça a facilité le travail de Luca Fitzpatrick, pas pour dire qu'il a facile, c'est pas ça du tout. Il a quand même bien fait dans le match de dimanche. Et je trouve qu'Antoine Coulombe a aussi très bien fait dans le match de vendredi à Québec.
Maintenant, ça nous amène à la question. On est à quelques semaines de la période de transaction des fêtes. Est-ce que, si tu es Martin Mondou, tu donnes des renforts à ton équipe? Sachant que Colin Paradis est absent au moins pour, je te dirais quasiment jusqu'au 1er janvier,
ouais.
Minimum. Maintenant, Olivier Desroches, moi, je suis très inquiet. On parle d'une absence au moins pour la semaine. On l'a vu au match de dimanche.
Probablement plus que ça.
Dans mon sens, tu n'as pour un mois, si ce n'est plus. Maintenant, est-ce que tu donnes un souffle supplémentaire à ta défensive particulièrement ou au contraire, tu dis, ben les gars qui sont là, on les fait grandir en quelque part en leur donnant peut-être plus de responsabilités, puis on leur fait confiance, on y va comme ça.
Oui, mais le problème, c'est que du côté des Cataractes, dans l'édition actuelle, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient servir d'appât aux autres formations.
Ouais.
Il y en a, je pense, qui pourraient être échangés, c'est très possible, mais en même temps, tu ne veux pas toucher à ton noyau pour le futur. Il est hors de question de toucher à ça, je pense. Sinon, quel vétéran tu peux échanger? Tu sais, tes joueurs de 18 et 19 ans à la défensive, tu en as besoin parce ouais. que la défensive, elle est décimée. Les attaquants, tu échanges qui? Les vétérans de 20 ans, Sonny ou
avec
ou
un
Manso?
Choix, moi.
Avec un choix de repêchage? Ouais. Ouais, ben encore là, je ne connais pas par cœur la banque de choix de repêchage mais... que les Cataractes ont. Ça pourrait effectivement servir de monnaie d'échange. Parce que probablement que Martin Mondou, encore une fois, comme il l'avait fait en allant chercher Colin Paradis, peut-être qu'il regarde ailleurs pour se trouver un vétéran défenseur qui pourrait venir donner un coup de main à Shawinigan. Parce que avec Paradis blessé, qui est un joueur de 20 ans, il y en a deux dans l'alignement. Donc, on peut aller en chercher un quatrième en attendant le retour de Colin Paradis. C'est permis. Est-ce que c'est ce que Martin Mondou est en train de faire? On verra.
Ce sera très curieux à surveiller parce que Martin Mondou nous a habitués à ne pas être nécessairement, je vais dire en bon québécois, plate à la période des transactions.
Ouais, il n'est pas du genre à se croiser les bras.
Ouais. Et tu sais, toi qui suis l'équipe depuis le début de la saison, dans l'ensemble de l'alignement que possèdent les Cataractes présentement, l'ingrédient, le piquant qui manquerait, ce serait quoi?
Ben écoute, au niveau offensif, ça va quand même relativement bien. Quoique, de temps en temps, on a tendance depuis quelques semaines à avoir des passages à vide. Tu sais, dans le match de dimanche contre le Cap-Breton, en retard d'un but, c'est pas normal qu'on obtienne le premier lancé de la période alors qu'il reste 9 secondes à jouer. Ouais. Ils ont eu 2 tirs en troisième période, les 2 dans les 10 dernières secondes de la troisième période. Malheureusement, ça arrive souvent de ce temps-là. Mais je pense que le piquant est revenu avec le retour des 3B du championnat mondial des moins de 17 ans. Hier, en parlant de dimanche, là, à 3-2 contre le Cap-Breton, la saison dernière, on aurait fermé les livres.
Mm-hmm.
Mais cette année, il y a quand même si on peine des fois à amener la rondelle dans le territoire adverse, il y a ce punch offensif qui peut permettre de croire qu'on va marquer le but dans les derniers instants. L'avantage numérique va bien également depuis le début de la saison. En fait, beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était la saison dernière. Ça aussi, le piquant s'en vient de plus en plus. Il faut solidifier le talon d'Achille, puis le talon d'Achille des Cataractes, ça reste la brigade défensive malgré la bonne performance du match de dimanche.
Et quand on regarde justement les matchs du week-end, des performances, disons, plus inspirantes que les Cataractes ont connues, est-ce que maintenant, on base là-dessus pour l'avenir, évidemment, mais avec la semaine qui s'en vient, quand même 4 matchs à disputer. Dans,
grosse semaine.
Effectivement, 2 fois contre Val-d'Or, notamment, qui est l'équipe, je dirais la plus accessible au classement général, mais encore là, elle est assez loin des Cataractes présentement.
Oui, effectivement, parce que Val-d'Or a 19 points. Les Cataractes en ont 11. Val-d'Or est 7e dans l'Association de l'Ouest. Les Cataractes sont derrière. Ça reste, dans le voyage en Abitibi, évidemment, l'équipe la plus accessible, même si c'est une équipe qui va bien actuellement, qui a gagné ses matchs d'ailleurs en fin de semaine. Et malgré des problèmes défensifs au cours des dernières semaines, avec quelques matchs où on accordait plus de 60 lancés, ça semble s'être rétabli à Val-d'Or. C'est une équipe qui a quand même une bonne base de talent et qui travaille toujours extrêmement fort. Dans le voyage en Abitibi, parce que peut-être quand les gens vont entendre la chronique, les matchs en Abitibi auront été joués, c'est mardi et mercredi.
Mm-hmm.
Au moment où l'on enregistre le podcast, c'est pas fait. C'est dans les 2 matchs, c'est sûr que c'est le plus accessible parce que l'autre match à Rouyn-Noranda, écoute, la meilleure équipe au classement général, on se change le premier rang entre les Wildcats et les Huskies. Ben, puis gagner à Rouyn-Noranda, c'est pas une tâche facile. Et honnêtement, je serais très surpris que les Cataractes même arrachent un point. Du côté de Rouyn-Noranda, je veux pas être négatif, là, mais soyons honnêtes, sur papier, les Huskies sont largement supérieurs aux Cataractes et en plus, le match est à domicile. Alors, gagner en Abitibi, c'est pas facile et ce sera pas le cas pour les Cataractes cette semaine.
Avec les matchs du week-end qui ont permis de voir que dans bien des situations, finalement, du côté des Cataractes, on n'est pas si loin que ça. Quand l'effort est là, il manque pas grand-chose. À Québec, oui, c'est 6-4, mais il y a un but dans un filet désert. Contre Cap-Breton, c'est un but en fusillade, pas en fusillade, mais en prolongation qui a fait la différence. C'est là que tu vois quand l'effort est déployé. Puis encore là, contre Cap-Breton, il manquait quelques minutes peut-être à l'effort collectif du côté des Cataractes, que ce soit un relâchement ou une fatigue, je ne sais pas. Mais tu vois qu'il ne manque pas grand-chose que ça pour que vraiment chaque soir, l'équipe soit compétitive.
Tu t'as dit le mot-clé, Marc-André. Quand l'effort est là, tu l'as vu toi-même en fin de semaine, on y était d'ailleurs pour ces deux matchs-là. À Québec, quand c'est venu 5-3 pour les Remparts en toute fin de match, l'année dernière, l'équipe, on se serait assis et on aurait écoulé les dernières minutes du match. Là, non, on n'a pas arrêté. Jérémy Manceau qui a marqué un superbe but, qui a ramené l'équipe à un but. Et encore là, pour les Remparts, ça leur a pris tout un effort jusqu'à la fin du match pour aller marquer le but dans un filet désert. Les Cataractes se sont bien battus. Ils auraient mérité un meilleur sort dans le match de vendredi. Alors, tu as raison. Quand l'effort est là, on se donne une chance d'aller chercher les deux points. Et je le répète, l'année prochaine, dans deux ans, ce genre de match-là, les Cataractes ne les perdront pas.
Et donc, on pourra bâtir là-dessus assurément cette semaine.
Il y a du
semaine.
Positif à sortir de la fin de semaine, c'est sûr et certain.
Donc, quatre matchs quand même très importants. Et tout juste avant qu'on passe justement au portrait de ces quatre matchs-là, ces quatre duels vont nous mener au tiers de la saison dans le circuit Courteau. Après ce premier tiers-là, quels sont tes joueurs les plus méritants peut-être et les plus grandes déceptions, si on peut le dire comme ça?
Du côté des Cataractes? Ouais. Ben écoute, honnêtement, je pense qu'on peut dire que les joueurs recrues qu'on est allé chercher lors du repêchage, les 3B, Bourque, Bourgault, Beaudoin, Valentin Nussbaumer également, c'est toujours une période d'adaptation pour Nussbaumer, sa première saison dans le hockey nord-américain. Le joueur méritant, je pense, moi je lève mon chapeau aujourd'hui à Yann Drozg. Drozg, quand il est revenu du camp des Pingouins de Pittsburgh, on a été critique avec lui parce que les deux premières semaines, peut-être même la troisième, c'était pas facile. On aurait dit qu'il avait encore la tête au camp de la Ligue nationale. Revenir à Shawinigan, ça n'a pas été facile. Il a peut-être eu un peu de misère à s'adapter, mais depuis ce temps-là, écoute, il est devenu l'attaquant dont les Cataractes ont besoin. Si on parvient à bien l'entourer, il va produire beaucoup. C'est le meilleur pointeur, d'ailleurs, des Cataractes depuis le début de la saison. Alors, chapeau à Yann Drozg. J'aime également ce que nous donne comme effort Jérémy Manceau, vétéran de 20 ans. Vincent Sonnet également. Beaucoup moins de pénalités dans le cas de Vincent Sonnet depuis déjà quelques semaines que ce qu'il nous montrait en début de saison. Donc, a réglé en quelque sorte son problème d'indiscipline. Par contre, défensivement, je trouve que certains joueurs qui en sont à leur deuxième année ont peut-être un peu de difficulté à prendre le pas supplémentaire. En anglais, on dit « step forward
oui, »,«
step further ». Je pense à Simon Dubois-Cérien contre le jeune homme. J'aime bien ce qu'il fait, mais ça semble être un peu plus difficile, être un peu difficile encore à sa deuxième saison. De temps en temps, c'est pas une question de talent ou de volonté, c'est peut-être juste le temps. La question de prise de décision, quand on est pressé et dans le territoire, les joueurs, les défenseurs, les Cataractes, des fois, quand il y a beaucoup de pression de l'offensive adverse, ont tendance à paniquer un petit peu. Des fois, on dirait qu'ils sentent des courants d'air où il n'y en a pas. Faudra peut-être juste travailler là-dessus.
Tu parles de Simon Dubois, puis ma réflexion, la réflexion que tu amènes s'applique pour moi aussi à Jason Horvat.
Oui, aussi. Tout à fait. Bon point. Bon point. J'aime bien. Écoute, Leon Denny, c'est une valeur sûre en défensive. Dans les cinq matchs qu'il a joué à Shawinigan, j'ai beaucoup aimé ce qu'a amené Colin Paradis. D'ailleurs, Daniel Renault nous le disait dans le match de dimanche. La malchance avec Paradis, c'est qu'il venait stabiliser la défensive. Ça, c'était la chance, mais sa blessure, c'est la malchance. Écoute, il a joué cinq matchs. Les Cataractes en ont gagné trois. Depuis ce temps-là, c'est assez sec comme récolte au niveau des victoires du côté des Cataractes. Donc, ce qu'un vétéran de 20 ans qui a 4 ans d'expérience dans le junior majeur peut amener à la défensive, la preuve est là. Et malheureusement, une blessure sérieuse pour Paradis, absent jusqu'au temps des fêtes. Il va falloir faire avec. Mais tu sais, Marc-André, je fais juste une petite parenthèse concernant les Huskies et les Cataractes. Tu sais, les Huskies ont 38 points au classement, les Cataractes en ont 11. Ils ont joué sensiblement le même nombre de matchs.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est 19 points d'écart après 21 matchs de jouer pour les Cataractes. C'est un point par match,
ouais.
Carrément. Donc, les Huskies, c'est une des puissances cette année dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, on va souhaiter bonne chance aux Cataractes à Rouyn-Noranda.
Oui, bien, écoute, si l'effort est là, on ne sait jamais, mais dans tous les cas, effectivement, sur papier, ça regarde un peu mal.
Oui, mais ça joue sur la glace. Un match, tu sais jamais.
Absolument, absolument. Et bon, je suis d'accord avec toi, d'ailleurs, pour l'analyse du premier tiers de la saison. Je te dirais, ma découverte jusqu'à présent, c'est Gabriel Bellé-Pelletier en défensive.
Aussi.
Plus le temps avance, ouais. Plus ce gars-là se fait confiance avec la rondelle. Le défenseur me rappelle à certains égards, puis je vais piger loin dans mon affaire un peu, mais me rappelle à certains égards Pierre-Marc Guilbeault. Pour ceux qui l'ont connu, il y a peut-être une dizaine d'années de ça ou quelque chose comme ça. Un défenseur quand même format assez petit, mais qui est quand même capable de jouer robuste, sans dire que c'est un gars à sens unique robuste, là, mais il est capable de tenir son homme et qui prend de bonnes décisions avec la rondelle. On l'a vu d'ailleurs dans les plus récents matchs des Cataractes. Daniel Renault l'a envoyé sur l'avantage numérique, entre autres, et lui qui a inscrit d'ailleurs son premier but en carrière dans le junior majeur en fin de semaine.
C'est ça à qui il me fait penser, et là, moi, j'y vais... C'est une grosse, grosse comparaison. C'est un peu tiré par les cheveux. Là.
Okay.
Mais un gars qui, à Shawinigan, portait exactement les mêmes chiffres sur son chandail, mais inversé. format de joueur, un peu le même format que Samuel Girard à sa première année. Mm. Je pense que Girard, écoute, est quand même beaucoup plus talentueux que Gabriel Bellé-Pelletier peut l'être. Mais le jeune Bellé-Pelletier, sa prise de décision dans son territoire, pas de panique, sort bien la rondelle de sa zone, est rapide. A probablement moins de talent que Samuel Girard en avait. Au niveau offensif, c'est pas le corps arrière que Samuel Girard peut être, c'est sûr et certain. Oh oui,
tu vois
mais
quelque chose.
Écoute, moi j'aime beaucoup. Écoute, à ce qu'il nous montre à sa première saison, puis malgré qu'il n'était pas là en début de saison parce qu'il ne faisait pas partie de la brigade régulière des défenseurs, son temps de glace, il l'a amplement mérité.
Exactement. Il évoluait d'ailleurs sur la deuxième paire défensive dans les plus récents matchs.
Oh,
donc,
puis de toute façon, dans les derniers matchs chez Cataractes, première, deuxième, troisième paire, il n'y a pas trop de différence. C'est, tout le monde est appelé à contribuer.
Et donc, quatre matchs cette semaine, la moitié sur la route?
La moitié sur la route en Abitibi, des matchs qui ne seront pas présentés sur nos ondes. Donc, pour le hockey des Cataractes au 106.9, c'est samedi prochain à domicile contre Val-d'Or et dimanche aussi au Centre Gervais-Auto contre les Saguenay de Chicoutimi. L'occasion de voir le premier choix, Hendrix Lapierre, et celui qui avait été repêché un peu plus loin, Théo Rochette également, avec les Saguenayens. Et toujours le fun de revoir Claude Bouchard à Shawinigan.
Oui, exactement. Et retour également de Steve Turcotte dans l'alignement partant, qu'on en profite pour féliciter parce qu'il a réussi son marathon, semble-t-il.
Il a couru son marathon en 3h10 et 3 secondes, mais a juste un petit raté par pas beaucoup la qualification pour le marathon de Boston. Mais d'abord, premièrement, courir un marathon. Félicitations, Steve. Bien content de le retrouver, même si tu as fait un excellent travail en fin de semaine. Et pour le marathon de Boston, pour Steve, c'est partie remise.
Ben oui, absolument.
Je pense. Le connaissant.
On te retrouve. Ben, on te retrouve. Toi, tu as toujours été là, Claude Boucher. Et on retrouve Steve Turcotte pour les matchs sur nos ondes. Merci aux gens d'écouter ce podcast.